les interviews de Fréquence Terre, Frédéric Bénaud.
Aujourd'hui, Fréquence Terre a rendez-vous dans la rédaction de cdurable.info, un peu comme chaque semaine d'ailleurs. Bonjour Cyril Souche.
Bonjour Frédéric.
Sur le site de cdurable.info cette semaine, des petites infos intéressantes. J'ai vu, par exemple, j'ai retenu celle-là, c'est un concours qui est organisé, c'est la deuxième édition cette année. Qui sera la capitale française de la biodiversité en 2011? Alors, ça existait déjà l'année dernière, comment ça s'était passé? Qui l'organise et comment ça marche?
Alors, c'est une initiative de Nature Paris, ça a lieu du 8 février, donc ça a déjà démarré jusqu'au 31 mai 2011, et toutes les collectivités qui le souhaitent, hein, puisque c'est ouvert à toutes les communes, avec un classement par, des catégories par taille d'agglomération et de communes, avec un système de questionnaire extrêmement précis. On l'a feuilleté, il fait 26 pages, et il permet à la collectivité à la fois de présenter sa collectivité et de permettre l'évaluation.
Quels sont les critères, par exemple? Quels critères sont retenus pour marquer la biodiversité dans une ville?
Alors, il y a à la fois des grands critères généraux qui sont propres à chaque ville, hein, puisqu'elle est assez libre de présenter tout ce qu'elle fait en matière de planification en faveur de la biodiversité, dans l'aménagement du territoire, dans la gestion et suivi de la biodiversité locale, dans le rapport entre biodiversité et citoyenneté. Et ensuite, il s'appuie aussi sur l'index de Singapour, qui sont des indicateurs de suivi de la connaissance biodiversité urbaine, qui rajoute un complément de notes. Le tout permet ensuite de décerner ce capitale française de la biodiversité, comme on a la capitale française de la culture. Ils essaient en tout cas de donner autant d'importance à cet événement. C'est parrainé par Jean-Paul Jaud,
donc le réalisateur,
le réalisateur qu'on connaît bien, qui est relativement engagé. Et l'année dernière, en 2010, parmi toutes les collectivités qui ont reçu un prix, il y a l'exemple d'Aulnay-sous-Bois qui est à visualiser en petite vidéo sur notre site.
On va parler d'un sujet un petit peu plus inquiétant. On parlait il y a très peu du gaz de schiste, c'est toujours d'actualité d'ailleurs, hein. C'est-à-dire qu'on va chercher très en profondeur du gaz très difficile à exploiter, avec un gaspillage d'eau énorme, donc on a arrêté un petit peu ces prospections-là. Et puis vous annoncez sur votre site qu'il y a des prospections inquiétantes dans les eaux françaises, c'est-à-dire que on commence à chercher sous la mer, éventuellement comment on pourrait encore extraire du gaz. Est-ce qu'on arrive vraiment à la fin du pétrole, à la fin de l'ère du gaz et du pétrole, pour qu'on cherche comme ça dans des endroits impossibles?
En tout cas, force est de constater que même si on ne nous en parle peu, de ce fameux pic de pétrole ou de cette fin du pétrole ou de cette société de l'après-pétrole qu'on sait tous nous concerner par l'avenir de la planète qu'il va nous falloir envisager très sérieusement, les grands fournisseurs d'énergie, eux, ont bien cela en tête, puisque au-delà des gaz de schiste, on a effectivement appris qu'il y avait des forages gaziers et à la recherche d'hydrocarbures en Méditerranée. Alors c'est vrai que dans les Cévennes là ça commence à il y a tout un tas de petits groupes de militants qui se réunissent pour organiser la résistance citoyenne. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les sociétés de forage se bousculent dans le bassin du Levant, qui est un bassin particulièrement préservé. On s'est aperçu qu'il y avait une zone baptisée Léviathan qui a été découvert récemment à 135 km au large des côtes d'Israël, qui est le plus vaste gisement d'hydrocarbures en eau profonde découvert depuis 10 ans. Et donc ça suscite des appétits. Et il y a là aussi des zones qui sont théoriquement soumises à des restrictions légales, mais qui sont ignorées. Il y a des passe-droits, semble-t-il, pour de la prospection. VVF, bien sûr, dénonce ça. Un peu une alerte, parce que c'est des zones qui sont immenses, hein, 12 500 km², c'est pas rien. Et il y a un permis qui a été accordé par le ministre Jean-Louis Borloo avant son départ. En novembre 2010, il y avait un navire de la société anglaise Melrose, qui était en train de faire une campagne de prospection sismique directement dans ce lieu qui est extrêmement préservé, où vous avez à la fois Éporcros et le château de Yann Arthus Bertrand et une petite île qui est un domaine militaire entièrement préservé également.
Voilà, donc à suivre hein, ces événements un petit peu curieux des grands pétroliers qui cherchent encore des ressources et qui ne s'intéressent peut-être pas forcément aux énergies nouvelles. Merci Cyril Souche pour nous avoir relaté toutes ces informations de votre site. Encore cette semaine et à la semaine prochaine.